France Culture, il est 12h30. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les syndicats organisent ce mercredi la 8e journée nationale interprofessionnelle de grève contre la réforme des retraites, étant entendu que la sévère mise en garde du Conseil d'État vendredi dernier n'a visiblement pas ébranlé la détermination de l'exécutif. Et puis cette nouvelle journée intervient à la veille de l'ouverture de la conférence dite de financement où la CFDT de Laurent Berger entend bien marquer son territoire.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, comment seront présentés les résultats des prochaines municipales?
Oui, le Conseil d'État se penche aujourd'hui sur la légalité de la circulaire dite Castaner, contestée par l'opposition et qui dispense les préfets d'attribuer une nuance politique aux listes des communes de moins de 9000 habitants. Après des semaines de bombardements, les forces du régime de Bachar el-Assad ont annoncé ce matin la reprise d'une ville clé dans la région du nord-ouest de la Syrie, Idlib, dominée par des groupes djihadistes et rebelles. Enfin, annoncé hier à Washington par le président américain en présence du premier ministre israélien, le plan censé mettre un terme au long conflit israélo-palestinien accorde de telles concessions à l'État hébreu qu'il a aussitôt été rejeté avec véhémence par les Palestiniens. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Frédéric Ancel, géopolitologue et maître de conférences à Sciences Po Paris. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Voilà, le conflit israélo-palestinien, c'est une question qu'on pourra poser à notre invité, l'anthropologue Nicole Lapierre. Doit-on se ressembler pour s'assembler, pour vivre ensemble? C'est l'objet, le sujet de sa réflexion dans un livre qui vient de paraître au Seuil. Faut-il se rassembler pour s'assembler? Ça part de la cellule familiale à la famille nationale. Elle envisage toutes les conditions possibles et nécessaires de se vivre ensemble. Rendez-vous avec elle dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Après les premiers pas laborieux de la réforme des retraites à l'Assemblée, hier marqué notamment par les critiques de l'opposition à gauche comme à droite, dénonçant tout à la fois l'amateurisme du gouvernement mais aussi une forme de mépris vis-à-vis du Parlement, les opposants seront de nouveau dans la rue donc aujourd'hui pour une 8e journée nationale interprofessionnelle de grève et de manifestation. Alors évidemment, face à un exécutif toujours aussi déterminé et après 2 mois quasiment d'affrontement, la question reste invariablement la même. Les syndicats contestataires ont-ils encore la capacité de mobiliser? C'est vrai que la tendance générale de ces dernières semaines est plutôt un essoufflement du mouvement, y compris d'ailleurs dans les transports, jusque-là fer de lance de la contestation. Reste toutefois une nouveauté, la publication, c'était vendredi dernier, d'un avis particulièrement critique du Conseil d'État, de quoi donner des arguments supplémentaires aux opposants à la réforme. Dès lors, se sentiront-ils ragaillardi par ce soutien inattendu de la plus haute juridiction administrative. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle journée d'action intervient donc à la veille de l'installation par Édouard Philippe de la conférence de financement au sein de laquelle les partenaires sociaux doivent réfléchir d'ici fin avril à des moyens pour garantir l'équilibre financier du système de retraite d'ici 2027. Et c'était justement l'objet de la conférence de presse organisée ce matin par le patron de la CFDT, Laurent Berger. Alors Jumet, bonjour.
Bonjour.
Face à la problématique du financement donc du futur régime par points, Laurent Berger lui répond « justice sociale d'abord ».
Oui, Laurent Berger n'est bien sûr pas hostile à la question du financement. C'est d'ailleurs à sa demande que cette conférence a été convoquée par le gouvernement. Mais il ne veut plus, à ce stade, évoquer ses propositions. Le premier objectif, c'est d'abord, selon lui, de se mettre d'accord sur un diagnostic partagé. Autrement dit, quel montant faudra-t-il combler d'ici à 2027? L'État dit 12 milliards d'euros. Laurent Berger répond « on verra ». Il souhaite d'ailleurs que des experts indépendants puissent se pencher sur la question. Et en parallèle, la CFDT compte bien peser sur le projet de loi lors du débat parlementaire pour donc, dit-il, plus de justice sociale. Une trentaine d'amendements ont ainsi été soumis aux parlementaires de la majorité, mais aussi du Parti communiste ou encore socialiste. Laurent Berger qui compte bien obtenir des avancées sur la retraite progressive, la pension minimum ou encore la pénibilité.
C'est pas simplement de la réparation. Évidemment que c'est de la réparation en termes de départ anticipé, mais c'est aussi de la prévention. C'est aussi de la possibilité de reconversion. On n'est pas fataliste face aux situations de pénibilité, mais on sait que dans un certain nombre de professions, ces pénibilités sont là, elles existent, elles sont difficilement dépassables, et dans ces cas-là, il faut clairement que les travailleurs puissent partir plus tôt à la retraite.
Alors sur cette question, la CFDT prend acte qu'évaluer la pénibilité de manière individuelle sur certains critères comme le port de charges lourdes, c'est trop compliqué pour les entreprises. D'où la proposition d'une prise en compte branche par branche, métier par métier. L'objectif que se fixe la CFDT, c'est que ces recommandations soient prises en compte d'ici la première lecture à l'Assemblée, c'est-à-dire avant la fin février.
Merci Anne-Laure Jumet. Puis toujours s'agissant de cette réforme des retraites, j'ajoute que les syndicats de pompiers professionnels professionnels ont annoncé la fin de 8 mois de grève nationale hier après avoir obtenu du ministre de l'Intérieur le maintien de leur système de retraite, mais aussi la revalorisation de leur prime de feu. Christophe Castaner, toujours lui, mais aussi le Conseil d'État, décidément au centre de toutes les attentions. C'est aujourd'hui en effet que la plus haute juridiction administrative doit statuer sur le bien fondé de la circulaire portant son nom relative à l'attribution des nuances politiques pour les prochaines élections municipales. L'opposition soupçonne le pouvoir en place de vouloir gonfler artificiellement les scores de La République En Marche en gommant les résultats des petites communes de moins de 9000 habitants où le parti présidentiel semble susceptible de réaliser de moins bons scores. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
6 recours contre le texte au total ont donc été déposés devant le Conseil d'État par Les Républicains, le Parti Socialiste, mais aussi Debout la France, autant dire, Pierre, par les oppositions représentant l'ensemble du spectre de l'échiquier politique.
Et il n'y a pas que les partis d'opposition qui s'inquiètent. En fin de semaine dernière, un collectif de politologues interpellait le ministre de l'Intérieur et lui reprochait de vouloir dépolitiser le scrutin municipal, car dans cette circulaire, il est demandé au préfet de ne plus attribuer de nuances politiques dans les communes de moins de 9000 habitants, ce qui reviendrait à rayer de la carte électorale des millions de citoyens au lendemain du deuxième tour. 96% des communes se retrouveraient ainsi sans étiquette et donc privées d'une couleur politique. Inacceptable pour l'opposition, vous l'avez dit, qui soupçonne le gouvernement de vouloir gonfler le score de La République En Marche. Un parti faiblement représenté dans les plus petites communes, mais qui a réalisé de bons scores aux législatives comme aux européennes dans les villes de plus de 10 000 habitants. Limiter le nuançage des listes aux communes de moins de 9 000 habitants serait se priver d'un baromètre d'évaluation de la pensée politique, expliqué ce matin sur France Culture le président du CNRA, Gérard Larcher, invité de la matinale de Guillaume Herner.
Quelque part, on casse le thermomètre, on casse le baromètre parce qu'on veut pas voir. En fait, la réalité, c'est que ces élections municipales ne devraient pas être très favorables à la majorité actuelle. Et en cassant le thermomètre, on pense qu'on fera illusion. Mais ce que disent notamment le Cevipof et bien d'autres politologues, c'est on n'a pas le droit, dans une démocratie qui doit avoir la transparence, de casser en quelque sorte l'observation de ce qui se passe dans le pays.
Alors, outre le manque de lisibilité, il est un autre aspect de cette circulaire qui ne passe pas dans l'opposition, c'est la création d'une nouvelle nuance politique, LDVC, pour liste divers centres, qui serait attribuée aux listes ayant l'investiture ou le soutien LREM, Modem, UDI. Autant dire, un nouveau bloc politique qui pourrait favoriser la majorité présidentielle. Avant la décision du Conseil d'État qui pourrait être rendue vendredi en fin de matinée, Christophe Castaner assure qu'il prendra en compte toutes les remarques du Conseil d'État pour que le droit soit respecté.
Merci Pierre Neveu. Et puis j'ajoute que si ces élections s'annoncent d'ores et déjà compliquées pour La République En Marche dans les petites communes, les perspectives ne sont pas forcément plus réjouissantes s'agissant cette fois-ci des grandes villes où le parti présidentiel accumule les dissidences, ainsi que plusieurs cas seront officiellement tranchés ce soir lors d'un bureau exécutif, en particulier celui de Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris, mais aussi Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, candidat à Biarritz contre la liste du maire Modem sortant, sur laquelle figure un autre membre du gouvernement, Jean-Baptiste Lemoyne. Le sujet sensible et polémique de laïcité à la française est-il encore compris par les élèves? Dans leur ensemble, les collégiens et les lycéens adhèrent très majoritairement à ce pilier de l'école républicaine. C'est ce qui ressort d'une étude inédite publiée ce matin. 2/3 des élèves interrogés estiment que la religion ne doit pas du tout être visible à l'école. Reste quelques bémols dans certains types d'établissements, notamment en lycée professionnel, où 28% des élèves jugent que les règles de vie prescrites par la religion sont plus importantes que celles de la République, contre 14% dans les lycées généraux. Et puis dans les collèges d'éducation prioritaire, 15% des professeurs chargés de cet enseignement constatent des atteintes à la laïcité, contre seulement 1% hors de l'éducation prioritaire. Renault a annoncé hier la nomination très attendue de Luca De Meo comme nouveau directeur général. L'Italien de 52 ans, ex-patron de Seat, prendra ses fonctions le 1er juillet après une année 2019 marquée par la disgrâce de son ancien PDG Carlos Ghosn et par une dégradation des ventes. Cette nomination est donc censée permettre à la marque aux losanges de trouver un nouveau souffle pour lui, mais aussi son alliance avec Nissan, étant entendu que son partenaire japonais prévoit lui de nouvelles mesures de restructuration. C'est ce que l'on a appris hier. Parmi celles-ci figure la fermeture de 2 usines et la suppression d'au moins 4300 postes. Le constructeur japonais Toyota a lui annoncé ce matin qu'il prolongeait d'une semaine la suspension de la production dans ses 3 usines d'assemblage en Chine. Conséquence de la crise sanitaire causée par le nouveau coronavirus, le géant américain Apple a lui aussi reconnu ce matin des incertitudes concernant la production de ses sous-traitants en Chine. Et puis, face à la propagation donc de ce virus qui a déjà fait 132 morts, Plusieurs compagnies aériennes ont pris la décision de réduire leurs vols vers la Chine continentale, voire de les suspendre entièrement. C'est le cas en particulier de British Airways. Enfin, j'ajoute que le Japon et les États-Unis ont été par ailleurs les premiers pays à engager aujourd'hui le rapatriement d'une partie de leurs ressortissants piégés dans la métropole de Wuhan, où depuis 5 jours maintenant règne désormais une atmosphère de ville fantôme. C'est en tous les cas ce qui ressort du témoignage de cet homme, Luc Liu, littéralement piégé sur place, vous allez l'entendre, et que Simon Leplâtre a pu joindre par téléphone.
Luc Liu, 30 ans, est originaire de Wuhan, mais il vit en France depuis 5 ans. Il était rentré dans sa famille pour célébrer le nouvel an lunaire et se retrouve désormais dans une ville en quarantaine où plus personne ne sort.
Dans la rue, en fait, c'est vraiment vide, quoi, parce que il y a plus de voitures. En fait, tu vois rarement, en fait, des gens qui marchent dans la rue.
Habituellement, la tradition du nouvel an veut qu'on rende visite à la famille et aux amis. Impossible en période d'épidémie.
Vu qu'on a tous annulé les visites familiales, en fait, je reste avec mes parents tous les trois, reste dans la maison, on regarde à la télé. Et en fait, on téléphone aussi tous les familles proches pour voir, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade, est-ce que tout va bien, est-ce que eux ils ont des masques, parce qu'en fait, maintenant, le masque, c'est tellement compliqué, même à un hôpital, en fait, il en manque.
Pour passer le temps, Luc retrouve ses cousins sur des plateformes en ligne pour jouer aux jeux vidéo. Et puis parfois, l'envie de parler avec des gens en vrai l'emporte et les voisins ouvrent la fenêtre.
Et après, en fait, dans la résidence, vu qu'on peut pas sortir, mais on a quand même envie de parler avec les gens, bah, on ouvre la fenêtre et on crie vers les autres, on parle comme ça, quoi.
S'il trouve le temps long, Luc s'estime heureux, sa famille et ses proches sont tous en bonne santé.
En Syrie, les forces de Bachar el-Assad continuent de progresser dans le nord-ouest du pays, région dominée par des groupes djihadistes et qui échappent toujours à son contrôle. Elles sont entrées hier dans la ville de Maret al-Nouman, une localité stratégique qui permet notamment au régime de se rapprocher d'Idlib. Les précisions à Alep de notre envoyé spécial Valérie Crovat.
C'était une question de jours. Hier, des soldats syriens sont entrés dans Maret al-Nouman après des semaines de bombardements qui ont fait fuir la grande majorité des 100 000 habitants que comptait la ville. Maret al-Nouman était doublement symbolique. Cette ville a été l'une des premières à se soulever contre le régime en 2011. Elle s'était également opposée à la présence des djihadistes en organisant des manifestations contre le front al-Nosra en 2018. Elle était enfin stratégique pour le régime de par sa position géographique sur l'autoroute qui relie Alep, la grande ville du Nord, à la capitale Damas. L'armée syrienne veut à tout prix sécuriser cet axe de communication qui lui est indispensable. La reprise de Maret al-Nouman est donc un pas de plus pour le régime dans sa reconquête de la région d'Idlib. Le temps joue en sa faveur. S'il parvient à reconquérir cette région, il aura repris le contrôle de la quasi-totalité de la Syrie.
Voué à l'échec, voilà donc peu ou prou résumé les réactions de la plupart des observateurs au lendemain de la présentation à Washington du plan de paix pour le Proche-Orient, tant il apparaît que celui-ci non seulement favorise Israël, mais impose par ailleurs des conditions draconiennes à la naissance d'un État palestinien. Sans compter que la mise en scène pour dévoiler le contenu donc des 80 pages concoctées dans la plus grande discrétion depuis près de 3 ans par les États-Unis n'a pas manqué de frapper les esprits. D'un côté, le président des États-Unis vantant sur une tonalité résolument optimiste un projet gagnant-gagnant. Et puis de l'autre, son ami et premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, tout sourire dans les salons de la Maison-Blanche en l'absence de tout représentant palestinien. Et c'est ainsi que le deal du siècle a reçu donc un accueil farouchement hostile hier soir dans les territoires palestiniens, en périphérie de Ramallah notamment, comme dans la bande de Gaza. Des centaines de Palestiniens ont conspué le président américain. Des heurts avec les forces israéliennes ont par ailleurs fait au moins 13 blessés en Cisjordanie occupée. Retour donc sur cette soirée avec notre correspondante dans les territoires, Alice Froussard.
Au palais présidentiel, la photo de Jérusalem et les couleurs vives du dôme du rocher attirent l'œil plus que d'habitude. Devant, tous les dirigeants palestiniens sont réunis, alignés un peu comme une union sacrée. Après l'annonce de Donald Trump et Benjamin Netanyahou, Mahmoud Abbas s'adresse directement au président américain.
Jérusalem n'est pas à vendre, les droits des Palestiniens non plus, ils ne sont pas négociables et ce plan, cette conspiration ne passera pas.
À côté du président de l'autorité palestinienne, preuve de la gravité, il y a même les grands rivaux du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. De l'autre, Saeb Erekat, c'est le négociateur historique des accords d'Oslo. La salle applaudit par moments, mais les visages sont graves. Ce plan est déséquilibré, bien en deçà des espoirs des Palestiniens, explique Adan, dehors, malgré la pluie et le froid à quelques mètres de la Moukata.
C'est injuste, le monde devrait stopper tout ceci. Jérusalem est notre capitale, la capitale palestinienne, et je veux qu'on respecte nos droits.
Et pour protester contre cet accord du siècle, des rassemblements sont prévus à Ramallah et dans la bande de Gaza.
Et pour continuer donc d'évoquer ce plan de paix au Moyen-Orient, invité à présent de la rédaction Frédéric Ancel, géopolitologue et maître de conférence à Sciences Po Paris. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À la lecture des propositions faites donc hier par Donald Trump censé pacifier le Proche-Orient, faut-il selon vous parler d'un plan de paix ?
Alors, ça c'est une bonne question. C'est une proposition très fortement proposée. Voilà, c'est la manière dont je le résumerai. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, les Palestiniens en l'état, ne peuvent pas l'accepter. Et en même temps, on a affaire, me semble-t-il, à quelque chose qui pourrait constituer une base de négociation. Qu'on prenne un peu de hauteur historique. On se souvienne du début des accords d'Oslo. Ça correspondait pas bien quand les Israéliens et les Palestiniens avaient commencé à négocier. Mais puis après, on s'est peu à peu rapprochés des positions respectives. Mais surtout, ils discutaient entre eux. Et là où je vous rejoins dans votre, le caractère peut-être pessimiste de la manière dont vous avez formulé votre question, c'est que, évidemment, dans l'état actuel, encore une fois, les Palestiniens ne l'accepteront pas. Et en même temps, il y a 25 ans, nous avons, au début des accords d'Oslo, nous avions affaire à un camp palestinien qui était au moins soutenu par tout ou partie du monde arabe. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. À l'époque, les schistes américains n'étaient pas sur le marché. Aujourd'hui, le pétrole est tout sauf rare et tout sauf cher, etc. Et on peut multiplier les critères. C'est la raison pour laquelle, au fond, Trump est aussi à l'aise, en quelque sorte, en proposant cette initiative de paix.
Vous le disiez, les Palestiniens sont tentés aujourd'hui, effectivement, de rejeter d'emblée ce plan. Selon vous, devraient-ils résister à cette tentation et accepter donc le principe de négociation directe pour plaider leur cause ? Ou bien, finalement, les Palestiniens n'ont-ils que 4 ans, en somme, pour accepter la réalité du terrain telle qu'elle se présente aujourd'hui ?
Ah, moi, je pense qu'ils auraient absolument intérêt à considérer ce document de travail comme une base de négociation. Une fois que vous acceptez le principe de négocier, vous pouvez très bien dire, non mais attendez, là en l'état c'est parfaitement inacceptable. Voilà notre contre-proposition, voilà nos 80 pages, et voilà les outils d'influence dont nous disposons, voilà les capacités diplomatiques, économiques dont nous disposons pour établir un rapport de force sur le tapis vert des diplomates. Mais s'ils ne le font pas, il risque de se passer la chose suivante, c'est que dans 20-25 ans, on aura à nouveau un président américain qui reproposera aux côtés d'un premier ministre israélien, nationaliste ou pas d'ailleurs, un nouveau plan de paix, et celui-ci sera plus inacceptable encore, car l'évolution profonde, lourde des rapports de force sur l'ensemble du Moyen-Orient, pas seulement sur le terrain, elle est réellement, réellement favorable à Israël.
Mais Frédéric Ancel, quel est l'horizon aujourd'hui pour les Palestiniens, car au fond, tout ce qui leur est donné aujourd'hui n'est que provisoire ou conditionnel ou bien éloigné dans le temps, de sorte qu'on a quand même le sentiment que tout cela sera probablement inatteignable.
Alors, je vous dirais qu'il y a au moins le principe, mais ça c'était acquis, j'allais presque dire depuis 47, hein, le principe d'un État souverain. Faut-il encore s'entendre sur ce qu'on appelle souverain, c'est-à-dire qu'il sera démilitarisé. Bon. Mais ça, à l'époque, même Arafat, au fond, n'avait pas forcément jeté l'éponge sur cette démilitarisation, d'ailleurs, qui est exigée par les pays arabes voisins, hein, l'Égypte et la Jordanie, peut-être encore plus que par Israël. En revanche, ce qui pose problème aujourd'hui, entre autres, c'est évidemment, un, la question de Jérusalem, même si Trump, ça vous aura pas échappé, a évoqué quand même une capitale palestinienne à Jérusalem. Mais bon, c'est le faubourg d'Abouti, c'est Al-Zaria, en fait. Hein. Je le disais modestement dans ma thèse de doctorat sur Jérusalem, il y a 25 ans. Ça, c'est déjà quelque chose qui était dans les tuyaux. Hein. Mais aujourd'hui, ça, a priori, ça ne suffit pas. Et puis, quid de Gaza d'un côté, de la Cisjordanie de l'autre. Est-ce que le Hamas, parce que c'est aussi une question fondamentale, est-ce que le Hamas, lui, accepterait au moins de partir sur cette base de négociation si jamais Mahmoud Abbas y allait? Et moi, je ne pense pas.
Une dernière question, Frédéric Ancel. Comment expliquer les réactions, disons, timorées de la scène internationale?
Ah, mais c'est, on tient parfaitement compte, sur la scène internationale, comme vous le dites bien, des rapports de force. aujourd'hui un Vladimir Poutine qui se dit simplement intéressé, mais attendez, regardez, l'Union européenne, le Quai d'Orsay, qui considère ce plan est intéressant et qu'on va le travailler. Regardez la réaction des Égyptiens, des Jordaniens. Les Émiratis, ils ont carrément validé. Hein. Ça, les Émirats arabes, ils valident carrément dès aujourd'hui et des autres États arabes. Nous sommes aujourd'hui dans un rapport de force général qui n'a plus aucun rapport avec celui qui prévalait il y a 20 ans. Et je le dis d'un mot, le conflit israélo-palestinien est devenu un simple contentieux. Et un contentieux, ce n'est pas urgent de le régler. Aujourd'hui, ce qui est urgent aux yeux du monde arabo-musulman, c'est la véritable guerre civile qui sévit, qui prévaut entre, d'une part, les puissances chiites, d'autre part, les puissances sunnites.
Merci Frédéric Ancel, géopolitologue et maître de conférence à Sciences Po Paris, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, ce plan de paix pourrait se révéler évidemment un précieux atout dans la campagne de Benjamin Netanyahou pour les législatives de mars prochain, d'autant qu'il devra se présenter face aux électeurs en tant qu'inculpé dans 3 affaires pénales hier. Après avoir retiré sa demande d'immunité, le Premier ministre a été officiellement inculpé pour corruption, abus de confiance et fraude. C'est la première fois dans l'histoire de l'État hébreu qu'un Premier ministre en exercice fait face ainsi à des accusations criminelles. Alors le chef de gouvernement, âgé de 70 ans, rejette évidemment en bloc les accusations dont il fait l'objet et dénonce un coup d'État judiciaire pour mettre fin à son règne le plus pérenne de l'histoire de l'État hébreu, avec près de 14 années passées au pouvoir, dont la dernière décennie sans discontinuer. Les avocats de Donald Trump ont, eux, bouclé hier leur plaidoirie au procès en destitution du président des États-Unis. Et c'est peu de dire qu'ils auront tout fait pour tenter de convaincre les élus du Congrès d'acquitter le chef de la Maison-Blanche aussi vite que possible, comprenez, malgré les pressions pour entendre de nouveaux témoins. Il reste à présent jusqu'à la fin de la semaine au chef de la majorité républicaine pour tenter de persuader les quelques sénateurs modérés de ne pas apporter leur soutien aux démocrates qui souhaitent faire témoigner John Bolton, l'ex-conseiller à la sécurité nationale. À 2 jours du Brexit, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo arrive aujourd'hui à Londres pour tenter d'aplanir les divergences avec son allié historique, au premier rang desquels le sujet Huawei. Le feu vert hier donné du Royaume-Uni à une participation du groupe de télécom chinois à son réseau 5G vient en effet défier des avertissements répétés depuis longtemps de Washington. Et puis, hasard du calendrier, il se trouve que c'est aujourd'hui que le commissaire européen au marché intérieur, le français Thierry Breton, doit justement présenter la stratégie européenne, cette fois-ci sur le déploiement de cette 5G. Alors on sait que les Américains, eux, ont refusé d'ouvrir leur marché national à l'équipementier de télécom chinois, Huawei, suite à des soupçons d'espionnage. De son côté, l'Europe, elle, ne devrait fermer la porte à aucun acteur. Faut-il y voir la preuve que le lobbying que mène l'entreprise chinoise à Bruxelles a fonctionné? Élément de réponse avec Johanna Hochstein, qui est allée rencontrer les représentants de Huawei.
Pas de grande enseigne à l'entrée du bâtiment qui abrite les bureaux de Huawei au cœur du quartier européen. L'entreprise chinoise préfère rester discrète et pourtant les représentants du groupe à Bruxelles ne ménagent pas leurs efforts. Ces derniers mois, l'équipe, composée d'une 20aine de personnes, qui pour beaucoup ont travaillé dans les institutions européennes auparavant, multiplie les événements, publications de rapports, tables rondes, conférences, avec un objectif, redorer l'image du groupe. Yacoub Era-Adamovic, responsable de la communication.
Une chose qu'on dit et répète aussi à Bruxelles, ce qui parfois provoque des surprises, mais c'est quand même en fait, Huawei est une entreprise privée complètement détenue par ses employés. Donc c'est un modèle peut-être comparable à un kibbouz, si j'ose dire, en Israël, et il n'y a pas d'ingérence de l'extérieur. Huawei n'est pas lié à l'État chinois.
Et pour convaincre les Européens de sa bonne foi, l'équipementier chinois n'a pas hésité à mettre la main au portefeuille. Entre 2017 et 2018, les dépenses en lobbying du groupe ont augmenté de 30%. Un investissement qui semble avoir payé, puisque contrairement aux demandes répétées des Américains, l'Europe a décidé de ne pas interdire à l'entreprise chinoise de participer à la course du déploiement de la 5G.
Le Parlement européen s'apprête à couper le cordon du Brexit. Les eurodéputés doivent en effet voter aujourd'hui le traité de retrait sur les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Dernière étape majeure donc pour parachever la sortie des Britanniques de l'UE. Ce vote historique est prévu en fin de journée. Le scrutin ne durera que quelques minutes et devrait se conclure sans surprise par le feu vert du Parlement. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par de nouvelles averses sur la Lorraine, l'Alsace et jusqu'au nord de Rhône-Alpes. D'ailleurs, le pays devrait profiter d'une accalmie temporaire avec le retour de belles éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 6 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par M. Le Chili. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.